C'est pas du vent. Le magazine de l'environnement sur RFI. Anne-Cécile Bras.
Bonjour, c'est une scène emblématique. Le 5 juin, un paquebot a pénétré dans l'enceinte de la ville de Venise, le premier bateau de croisière à l'horizon depuis 17 mois. Cause la crise sanitaire, bien sûr. Sur les quais, des centaines de personnes s'étaient réunies avec des motivations, disons, contrastées. Certaines étaient ravies de voir enfin revenir le tourisme de masse, tandis que d'autres affichaient leur colère avec des panneaux « Non aux bateaux de croisière ». Située au bord de la mer Adriatique, au nord-est de l'Italie, la ville de Venise tire sa splendeur d'un passé glorieux. Ancienne capitale de la République de Venise jusqu'au XVIIIe siècle, ville incontournable pour les échanges maritimes, commerciaux et culturels, Venise a un passé riche, incarné par ses magnifiques palais et son incroyable réseau de canaux reliés par 435 ponts. La place Saint-Marc et le palais des Doges attirent chaque année des millions de touristes. Enfin, attiraient, parce que depuis la pandémie, c'est le calme plat et peut-être l'occasion de repenser justement le modèle touristique d'une ville qui a perdu les deux tiers de ses habitants et une partie de son âme, à tel point que l'UNESCO pourrait, la semaine prochaine, inscrire Venise sur la liste du patrimoine mondial en péril. Venise, emblème menacé du tourisme de masse, c'est un reportage de Julien Comand.
C'est pas du vent sur RFI.
Bonjour.
5 minutes.
5 minutes de retard. Buongiorno Muriel. Buongiorno. J'étais en train de me dire en traversant le parc que je crois que c'est la première fois de la journée que j'entends les bambinos de Venise. Là, les enfants, ils étaient cachés toute la journée. C'est vrai que c'est pas une ville où il y a beaucoup de gosses, j'ai l'impression.
C'est pour ça que je vous ai invité dans cette zone-ci, parce qu'on voit la réalité sociale, justement, la vie quotidienne. Là, c'est un quartier derrière le quartier de Cannareggio, qui est un quartier résidentiel, encore habité. Donc, les familles qui restent sur Venise, généralement, s'installent dans ce quartier et emmènent les enfants dans le parc le plus proche où on se trouve actuellement.
Donc là, on est nord de Venise. Hein.
On est au nord de Venise.
Vous dites encore habité, presque comme si c'était une fatalité, non ?
Oui, parce qu'il y a un problème d'exode de la population sur Venise qui a déjà eu lieu malheureusement pour le Saint-Marc et le quartier de Saint-Marc et ses alentours. Donc il n'y a plus du tout d'habitants du côté de Saint-Marc. C'est devenu uniquement une zone touristique à voir, mais pas à vivre. Les autres quartiers restent à voir et à vivre. Et donc, en particulier le quartier de Cannareggio, mais celui aussi de Castello, la partie populaire de Castello, le quartier d'Orsoduro, qui est un quartier qu'on pourrait classifier de quartier étudiant, avec une place très conviviale, la place Santa Margherita. Et donc, il y a des lieux qui sont privilégiés par les habitants, qu'ils soient vénitiens d'oc, comme on dit ici, d'origine, ou d'adoption, comme moi. On m'appelait la droguée de l'Italie, pour résumer un peu le concept.
Voilà. Et Venise est la drogue dure, hein, c'est ça ?
Venise, oui, c'est une ville qui est très, très attachante. Ça passe ou ça casse, on va dire. C'est une ville qui a du caractère. Mais quand on tombe amoureux de Venise, on y revient. C'est une ville où on revient. Toute la ville est classée historique par l'UNESCO. La totalité de la ville est classée patrimoine de l'humanité. C'est pour ça que moi, je conseille vivement aux voyageurs, aux vrais voyageurs et non pas aux touristes, de s'éloigner de la partie de Saint-Marc, de voir bien sûr les incontournables, mais de ne pas s'y attarder, d'aller s'imprégner de l'atmosphère de Venise dans les autres quartiers.
Bon, c'est ce qu'on va faire ?
Oui, si vous voulez.
Allez. Mais quel calme ! C'est génial, hein.
Oui, mais la vraie Venise est très silencieuse. C'est une ville extrêmement tranquille et c'est ce qui la caractérise. Du coup, on perçoit tous les sons, toutes les sonorités, on va dire, naturelles, que ce soit le clapotis de l'eau, que ce soit les pas, les bruits des pas. Là, je pense qu'on entend les bruits des pas, on est en train de se déplacer. Toutes les sonorités sont exaltées, c'est un peu une caisse de résonance. Il n'y a pas la présence de voiture, donc du coup, toutes les autres sonorités sont exaltées.
Et comme... Bon, y a quand même un petit peu d'ambiance hein, avec les bambins.
Ah oui, il y a de l'ambiance, mais c'est de l'ambiance authentique. Il n'y a rien de faux, c'est pas une vitrine, c'est une scène de vie sociale, on va dire.
Vous avez décidé, vous, de faire visiter, en fait, votre chez-vous, votre quartier, votre quotidien. Pour quelle raison ?
Ben justement, pour permettre aux gens d'aller au cœur de ce que j'appelle la vraie Venise, s'imprégner de cette atmosphère, de ce rythme de vie, et de aussi une volonté de diversifier le flux touristique. Moi, je propose des parcours individuels et familiaux, donc j'ai une approche que j'appelle éco-compatible. Donc je ne travaille pas avec de grands groupes, mais uniquement avec de mini-groupes et des individuels, ce qui veut dire que les personnes ont la possibilité de s'intégrer dans le contexte d'accueil. Et donc c'est une expérience de voyage. Plus qu'une visite, c'est une expérience de voyage que je propose.
On sent presque la militante hein, chez vous, hein, une manière de voir le tourisme complètement autrement. Et, ça vous agace de voir débarquer comme ça le matin des hordes de...
Ah, pardon. Alors, disons que Venise est une ville qui a besoin du tourisme. Bien sûr, c'est une ville qui vit aussi du tourisme. Elle a besoin d'un autre tourisme, pas d'un tourisme de masse. Parce qu'on est arrivé, avant la pandémie, on était arrivé à une présence annuelle de 30 millions de personnes, ce qui est absolument ingérable dans une petite ville comme Venise, avec des ruelles, avec un...
Ça voulait dire quoi concrètement quand il y avait ce pic? Ça veut dire tout le temps, du monde, de partout quoi.
Ce qui veut dire au quotidien 100 000 personnes en moyenne, ce qui est énorme dans une ville où il y a peu d'habitants, une ville de petite dimension. Il ne s'agit pas d'une capitale, il s'agit d'une petite ville de province. Et surtout, une ville qui est caractérisée par des ruelles extrêmement étroites. Donc, dès que vous amenez un groupe, et un groupe déjà à partir de 15 personnes, c'est déjà trop, vous bloquez l'accès, vous bloquez la viabilité, et tout le monde est pénalisé. Les résidents pour les déplacements, les touristes eux-mêmes qui se sentent un peu traités comme des troupeaux, hein, quelque sorte, parce que c'est un peu l'expérience qu'ils vivent dans le contexte du groupe. Et ça crée beaucoup de frustration. Je pense pour tout le monde, que ce soit pour les touristes comme pour les habitants. Voilà, le défi, c'est de trouver un juste équilibre.
On va faire une petite expérience.
Oui.
On va tendre l'oreille.
Et là, vous entendez les bateaux, par exemple, les sonorités des bateaux. Ah, c'est vraiment une caisse acoustique, une caisse de résonance, mais pour les sonorités que l'on n'a pas l'habitude d'entendre ailleurs. Hein. Alors, il y a parfois des sonorités qui peuvent être désagréables, mais ça reste des sonorités différentes des autres villes. Mais en général, c'est des sonorités qui restent agréables. Bon, à part les bruits des moteurs des bateaux. Mais vous voyez le remous de l'eau, la pluie aussi, hein, quand il pleut. Il y a une dimension très, très agréable, le clapotis de l'eau. Moi, cette Venise sensorielle, je l'aime beaucoup aussi. Voilà, on arrive au niveau ce sont des cafés qui longent le quai. La plupart de ces cafés sont des petits bars sympas fréquentés par des locaux. Vous voyez le monsieur là, avec sa barque. Il y a une fréquentation, il y a quelques touristes bien sûr. Hein. Il n'y a pas de présence de groupe dans cette zone-ci.
J'ai l'impression qu'il n'y a pas de touristes, clairement. Moi, ça fait une grosse journée que je suis arrivé sur Venise. J'ai connu le Venise d'avant, hein, celui que l'on décrit, hein, celui du tourisme de masse, où on fait la queue pour tout voir. Là, c'est calme, hein. Là, ça s'est bien ralenti. Quoi.
Oui, je suis bien d'accord avec vous, on est passé d'un extrême à l'autre. Alors, il y avait l'avant-Covid, on va l'appeler comme ça, qui était une situation de surtourisme, où il y avait trop de touristes. On est passé à l'autre extrême en période de Covid, où là, il n'y avait plus de touristes du tout. Et là, mon souhait, ce que j'espère, c'est qu'il y ait un retour du tourisme, mais justement en équilibre. Moi, je reconnais que je travaille actuellement, parce que justement, il n'y a pas de groupe sur la ville. Et les individuels, peut-être, privilégient cette période en sachant que la ville va être moins affolée. Je pense qu'il y a... Beaucoup me disent, on a choisi de venir à Venise pendant cette période pour avoir une approche justement différente. Pouvoir aller un peu à la rencontre de la réalité sociale, loin du hors sentier battu, loin du tourisme de masse. Les personnes qui désirent avoir cette approche, c'est le bon moment. Ça, c'est sûr que c'est le bon moment.
Je vais enregistrer un peu le clapotis pendant que c'est au calme. Qu'est-ce que vous disent les Vénitiens, enfin vous qui êtes Vénitienne maintenant, Muriel? Raison, besoin de tourisme, passion, ces touristes, ils sont un peu en trop quand même. C'est pensé par la mairie, par exemple, par les autorités locales. Il y a un plan, il y a quelque chose qui est concret quand même pour les opérateurs touristiques comme vous, les opérateurs culturels.
Sincèrement, il n'y a pas assez. Ça, c'est clair, il n'y a pas assez. Il y a beaucoup de blabla, ça oui. Il commence à y avoir une prise de conscience dans les intentions. Il y a de bonnes intentions qui ont commencé à naître pendant la période du Covid.
Lesquelles,
beaucoup moins avant, et bien celle de dire justement on va repartir, mais repartir d'une autre façon. Il y a aussi des lobbies économiques derrière tout ça. Je pense en particulier aux bateaux de croisière, pour ne pas faire de mauvaises pubs, mais bon, il faut en parler. Il faut en parler des bateaux de croisière à Venise. Alors certes, il y a une minorité de personnes qui vivent sur ce type de tourisme-là, mais la majorité des personnes en souffrent. Parce que c'est un tourisme qui est de masse, justement, et qui ne consomme pas dans la ville, qui consomme tout à bord du bateau.
Ça ne sera jamais vos clients, ces gens-là, hein.
Sincèrement, pour l'instant, je n'ai jamais eu de demande de leur part. Ils n'ont pas le temps, de toute façon. Ils n'ont pas le temps parce qu'ils restent sur la ville en moyenne une journée, et tout est organisé à bord du bateau, que ce soit la restauration, que ce soit les loisirs. Donc, ils vont s'éloigner, allez, on va dire 2-3 heures du bateau, pour aller entre San Marco et Rialto. C'est un tourisme de relax, c'est autre chose.
Est-ce que ça cristallise pas un peu trop cette histoire de croisière? Parce qu'en fin de compte, il y a quoi, 5, 6, 7, 10 000 personnes par jour qui descendent des bateaux sur un total de 100 000. Ça fait à peine 10%. On les critique beaucoup, mais bon, la masse globale, elle vient d'ailleurs quand même.
Il y a un impact qui est énorme à tout niveau, c'est-à-dire qu'ils ont un impact aussi sur des aspects qui sont très importants pour la ville, par exemple le remous de l'eau, c'est-à-dire l'érosion des... L'érosion des édifices historiques, du marbre. Il y a une pollution aussi acoustique, parce que les grands bateaux utilisent des radars, font du bruit. Ils font souvent des soirées dansantes le soir, dans les quartiers derrière les quartiers populaires. Moi, j'ai vécu dans le quartier de Santa Marta, et derrière, il y avait parfois des soirées dansantes. Ils isolaient en fait une zone du quai, de façon à permettre aux gens de la croisière de pouvoir avoir une soirée privée, quoi. Une soirée privée directement sur la rive. Pollution atmosphérique, pollution visuelle, ce qu'on dit en italien, polvere sottili, c'est-à-dire les particules fines.
Les bateaux de croisière passent à une centaine de mètres de la piazza San Marco.
Ils passent très près.
Donc, et les fumées de bateaux, en fait, arrivent directement sur la ville.
Ouais. C'est un peu leur billet de visite, sans compter le risque accident. On a eu un accident juste avant le Covid, d'ailleurs. Il y a eu un accident concrètement vers le port de Venise. Donc un bateau est allé s'écraser le long du quai. Par chance, c'était dans une zone, la zone portuaire, donc la zone moderne, avec des quais en ciment. Mais quelques mètres plus loin, on était en pleine zone historique avec les quais de sud, les quais des Zattere, qui correspondent à une zone totalement classée historiquement et qui est située à quelques mètres du quai où a eu lieu cet accident.
Alors, en même temps que vous me parlez, Muriel, je vois une autre guide, en fait, elle est en pleine visite, mais visite qu'elle fait avec son téléphone. Elle parle via une application qui s'appelle Zoom à des touristes. Je vais essayer de m'approcher. Vous pouvez m'expliquer un petit peu ce que vous faites avec votre téléphone dans Venise?
Quindi la persona che mi chiede questa visita guidata.
Donc la personne qui choisit ce tour me donne rendez-vous, choisit la durée, elle choisit quoi regarder. On se donne rendez-vous à Venise quelque part, c'est comme un tour normal mais virtuel.
Et que questi sono tour virtuali che permettono di vedere in dettaglio le opere d'arte
Une autre différence de ce tour virtuel, c'est qu'ils permettent de voir le détail. Par exemple, le détail des œuvres d'art, des collections dans les bibliothèques. On peut voir un niveau de détail qu'on ne voit jamais quand on est ici à Venise. Par exemple, le détail d'une miniature ou d'un portrait. Quand je fais un tour avec 4, 10, 20 personnes, ces gens ne voient jamais ce détail. Peut-être un arrive à le voir, mais les autres non.
Et enfin, c'est aussi un target divers. E oggi con la pandemia sono molti gli anziani che non si sentono di viaggiare.
Et enfin, sa population, le target est différent. Avec la pandémie, les personnes âgées ne se sentent plus de voyager. Il y en a d'autres qui n'ont pas assez de moyens financiers pour faire des voyages. Et ces mini-tours sont beaucoup moins chers qu'un voyage. On peut aussi amener Venise aux personnes handicapées, par exemple, ou qui sont en fauteuil roulant, qui ne pourraient pas voir la ville. Et enfin, une différence avec les autres tours virtuels, donc pas avec les tours classiques, mais avec les tours virtuels, c'est que moi, j'accepte les questions, donc c'est un dialogue.
Chiedono le domande, quindi è un dialogo. Molti dicono, non voglio il tour virtuale, aspetto di poter ritornare a viaggiare.
Il y a des gens qui disent je ne veux pas de tour virtuel, j'attends de pouvoir revenir à Venise, j'attends de pouvoir retourner à voyager en 2022, en 2023. J'ai déjà des demandes pour 2023, mais on veut vraiment attendre autant pour la beauté. Avec un tour virtuel, on peut ramener la beauté dans des maisons au moins une heure par semaine.
Grazie, grazie mille. Un bacione. Arrivederci.
Ciao, grazie. Il sole è alto, splende già sulla città.
C'est pas du vent sur RFI, nous nous intéressons à l'impact du tourisme de masse aujourd'hui avec l'exemple de Venise. Cette magnifique ville située au bord de la mer Adriatique attirait avant la crise 30 millions de touristes par an sur seulement 6 km carrés. Résultat, les deux tiers de ses habitants ont quitté la ville au profit de logements touristiques, mais ceux qui sont restés vivent du tourisme. Alors comment résoudre cette équation ? Julien Comand a rendez-vous avec un responsable de la ville.
Alors maintenant, j'ai rendez-vous avec l'adjoint à la mairie en charge du tourisme, du développement économique, de la cohésion sociale, Simone Venturini. C'est un portefeuille hyper important, hein, c'est le bras droit du maire de Venise, jeune trentenaire, d'ailleurs le maire de Venise qui n'a pas souhaité nous recevoir. Et je vais le rencontrer à quelques mètres de son bureau, devant le pont du Rialto.
Buongiorno.
Buongiorno.
Simone, piacere.
Julien.
Piacere.
Giovanni.
Piacere, molto lieto.
J'ai cru comprendre que vous parliez très bien français.
Non, c'est pas vrai. Je préfère l'italien, s'il vous plaît.
En se promenant ce matin, en allant jusqu'à votre bureau, assez surpris quand même du peu de monde, le fait aussi qu'on entend beaucoup parler italien. Alors, est-ce que ça vous préoccupe ?
Siamo ancora in una fase di lenta ripresa.
On est dans une phase de lente reprise. Pendant le week-end, on a quand même eu 15-20 000 présences étrangères grâce au salon nautique et à la biennale, mais la reprise est lente.
J'ai une question qui n'est pas de moi, mais qui est d'une guide que j'ai rencontrée dans Venise, qui m'a demandé de vous parler directement et qui voudrait savoir...
Che cosa si vuole fare per la città, per un turismo sostenibile? Vorrei sapere che cosa risponde.
Qu'est-ce qu'on fait pour la ville pour qu'on développe un tourisme durable?
Servirebbe una risposta lunghissima. Posso dire innanzitutto che servirebbe una specialità normativa per la città.
La risposta sarebbe très longue. Moi, je pense qu'il nous faut une exception normative. Il nous faut des pouvoirs. On demande au gouvernement de nous donner des pouvoirs spéciaux parce qu'aujourd'hui, Venise et Florence ont les mêmes instruments normatifs que les petites communes d'Italie. Donc, il nous faut plus de pouvoirs et ensuite agir dans une certaine direction.
Vous pouvez nous donner un exemple concret de ce que vous voudriez avoir comme outil justement pour contrôler le flux de touristes?
Ad esempio, noi vorremmo poter gestire e governare il fenomeno.
On voudrait par exemple pouvoir gérer la location à court terme, par exemple le phénomène d'Airbnb. On voudrait pouvoir contrôler davantage les activités commerciales. Aujourd'hui, tout le monde peut ouvrir n'importe quoi ici à Venise ou à Florence. On voudrait peut-être intervenir là-dessus.
Vous voulez être un peu plus interventionniste en fait en tant que municipalité, avoir un regard un peu plus sur qu'est-ce qui est fait, comment c'est fait et pourquoi en fait?
Sì, esatto, nonché una giurisdizione anche sulle acque.
Oui, on veut aussi une juridiction sur les eaux de la ville. Par exemple, on ne peut pas décider ce qui se passe dans le bassin de San Marco et dans le canal de la Giudecca. Je fais référence notamment au problème des bateaux de croisière. On veut que ce soit les Vénitiens qui décident ça et pas une commission gouvernementale qui est très loin et qui ne connaît pas la ville.
À vous entendre, on sent une sorte d'animosité entre l'État italien et Venise. Vous voulez recélébrer la République de Venise, vous voulez recréer la République de Venise, reprendre votre indépendance?
Non, non, non vogliamo farlo nonostante siano i 1600 anni di Venezia, quindi un anniversario importante.
Non, 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 on veut pas ça, même si ce sont aujourd'hui les 1600 ans de la fondation de Venise. Mais on voudrait que l'État et que l'Union européenne comprennent que Venise est une ville spéciale et a donc besoin de pouvoirs spéciaux. Une ville unique ne peut pas être gérée sans ses pouvoirs spéciaux.
À un niveau un peu plus personnel, vous qui êtes vénitien, qui venez travailler tous les jours dans ces bureaux magnifiques qui donnent sur le Grand Canal, le Rialto, quand autour de vous il y a tant de touristes, 37 millions de touristes dans les années où le tourisme fonctionne à plein régime, c'est quoi l'avenir en fait? Dans 5 ans, dans 10 ans, ça va ressembler à quoi et quel serait le portrait robot de ce touriste qui viendrait à Venise?
Noi stiamo dicendo da un anno ormai a questa parte che l'epidemia è comunque l'occasione per ripartire non come prima ma meglio di prima.
Ça fait un an qu'on répète que la pandémie peut être l'occasion pour redémarrer mieux qu'avant, d'une meilleure façon. Pour cela, il nous faut les pouvoirs dont j'ai parlé tout à l'heure, mais aussi des actions pour développer un tourisme différent, des touristes qui restent plus longtemps dans la ville et qui ne viennent pas uniquement pour 3 heures et un selfie.
Vous allez mettre en place un droit d'entrée dans Venise à un prix de 3 euros. Est-ce que ce prix n'est pas simplement symbolique? Quand on sait que 3 euros, c'est le prix d'un panino, c'est peut-être pas assez.
Non è 3 euro, è da 3 a 10 euro inizialmente e lo è.
Alors, ce sera entre 3 et 10 euros et cela c'est parce que la loi qui nous permet d'introduire ces tickets nous a mis un plafond de maximum 10 euros. Mais attention, ce n'est pas une mesure qu'on introduit pour faire de l'argent, c'est surtout pour obliger les personnes à réserver leur visite. Il faut réserver sa visite à Venise, surtout si on vient uniquement en journée. Les autres, ils ont déjà réservé l'hôtel, s'ils dorment ici. Et cela va nous permettre de gérer le flux et de rendre plus cher, par exemple, certaines journées. Comme ça, on pourra mieux gérer le flux de visiteurs.
Il y a un sujet qui divise énormément les Vénitiens, c'est les bateaux de croisière. Entre ceux qui ont besoin de ces croisiéristes, 6000 personnes qui descendent d'un bateau en quelques minutes, et ceux qui disent c'est trop, ça n'apporte rien à la ville, ça la met en danger. Comment on fait pour gérer ce conflit et cette opposition qu'il y a dans la ville de Venise?
Il Comune di Venezia già 6 anni fa ha presentato al governo la sua proposta per tenere insieme i 5.000 posti di lavoro legati al porto crociere.
Alors, il y a 6 ans, la mairie de Venise a presenté une proposition au gouvernement italien pour d'un côté sauver les 5.000 emplois qui travaillent dans le port des croisières et de l'autre côté pour éloigner les croisières du bassin de San Marco. Il s'agit de faire suivre la route aux croisières, faire suivre la route des bateaux de marchandises et donc d'arriver au port de Marghera sans passer en face du bassin de San Marco. Et ensuite, les gros bateaux de croisière resteraient là, tandis que les petits pourraient suivre le pont ferroviaire et revenir dans le centre-ville. Cela fait 6 ans que cette proposition est sur la table des différents gouvernements italiens. Maintenant, il semble que ce gouvernement va aller dans cette direction. On a quand même perdu 6 ans, les gens se sont énervés et on a mis en discussion ces emplois.
Pourtant, il y a quelques jours, il y a encore un bateau qui est passé devant Piazza San Marco. Et il y avait des centaines de bateaux et d'opposants qui étaient en face de ce bateau.
C'erano molte centinaia di manifestanti pro e molte centinaia di manifestanti contro.
Oui, il y avait des centaines de manifestants pour et contre le croisière. Il y avait le cortège des gens qui travaillent dans le port, qui revenaient enfin à travailler après un an et demi, et il y avait les comités contre les bateaux de croisière. Cela montre qu'il faut laisser ces décisions au niveau local, où on connaît la ville, parce qu'on n'aurait pas perdu 6 ans.
En fait, si on vient visiter Venise en ce moment, c'est comme si on visitait Venise il y a 20 ou il y a 30 ans, avant l'explosion du tourisme de masse.
Eh bien, sabato e domenica sono molto comunque frequentati, la città è comunque piena di
Alors, le samedi, le dimanche, la ville est quand même très fréquentée. Il y a des gens de la Vénétie, de l'Italie, des étrangers qui viennent. Mais dire que le tourisme est le problème de la ville de Venise, c'est simplifier trop les choses.
Turismo vuol dire tante cose, vuol dire appunto il visitatore che arriva qua ogni anno e sta qua un mese perché si è innamorato della città.
Le turista può rester ici un mois parce qu'il est tombé amoureux de la ville, comme il peut rester que 3 heures, faire un selfie et repartir. Ce qui est difficile, c'est d'attirer les gens qui ont envie d'aimer cette ville et dire aux gens qui viennent en bus pour 3 heures pour ensuite reprendre la route pour Florence que peut-être cela n'est pas la meilleure façon de visiter une ville. C'est un problème qui ont aussi d'autres villes, de Barcelone à Berlin. Mais ces villes-là ont eu des pouvoirs spéciaux, les villes italiennes elles ne les ont pas eu.
Merci à vous.
Grazie mille.
Merci à vous, grazie.
On fait une petite photo devant le Grand Canal.
Venezia che muore, Venezia appoggiata sul mare, la dolce ossessione degli ultimi suoi giorni tristi, Venezia la vende ai turisti, che cercano in mezzo alla gente l'Europa o l'Oriente, che guardano alzarsi alla sera il fumo o la rabbia di Porto Marghera. Stefania era bella, Stefania non stava mai male, è morta di parto gridando in un letto sudato d'un grande ospedale. Aveva 20 anni, un marito e l'anello nel dito. Mi han detto confusi i parenti che quasi il respiro inciampava nei denti. Venezia è un albergo, San Marco è senz'altro anche il nome di una pizzeria, la gondola costa, la gondola è solo un bel giro di giostra. Stefania d'estate giocava con me nelle vuote domeniche d'ozio, mia madre parlava a sua madre, vendeva Venezia in negozio. Venezia è anche un sogno di quelli che puoi comprare, però non ti puoi risvegliare con l'acqua alla gola e un dolore a livello del mare. Il doge ha cambiato di casa e per 1000 finestre C'è solo il vagito di un bimbo che è nato, c'è solo la sirena di Mestre. Stefania affondando, Stefania ha lasciato qualcosa, novella 2000, una rosa sul suo comodino. Stefania ha lasciato un bambino, non so se i parenti gli ha fatto davvero del male, vederla morire ammazzata, morire da sola in un grande ospedale. Venezia è un imbroglio che riempie la testa soltanto di fatalità, del resto del mondo non sai più una sega, Venezia è la gente che se ne frega. Stefania è un bambino, comprare o smerciare, Venezia sarà il suo destino, può darsi che un giorno saremo contenti di esserne solo lontani parenti.
Vous écoutez C'est pas du vent sur RFI, nous nous intéressons à l'impact du tourisme de masse aujourd'hui avec l'exemple de Venise. Julien Comand retrouve la guide française Muriel Béni dans un quartier loin du tumulte touristique.
Muriel Béni, vous êtes guide individuel. Alors là, on est dans le nord de Venise, nord de la ville, dans un quartier, quoi. C'est un quartier populaire ici.
Et vous pourrez classifier ailleurs de quartier HLM. Mais comme vous le constatez, c'est un HLM autrement, là aussi, à la vénitienne.
Parce que comme dit la chanson de Renaud, qu'est-ce qu'il est blême, mon HLM, hein. Ouais. Là, on a vu sur la lagune, quand même.
Ouais, là, oui, là, c'est un HLM chic, on va dire. Mais ça reste un HLM. Ça reste un HLM et les personnes qui ont la possibilité d'y avoir un logement, généralement, n'en partent pas. Parce que le prix, justement, de l'immobilier, sur le prix du marché de l'immobilier, est complètement drogué, en fait, par la demande touristique. Là aussi, hein, c'est un autre verre, hein, quand il y a trop de présence aussi touristique. Il y a aussi cet aspect-là, hein, la flambée des prix sur les logements.
Concrètement, le prix d'un petit appartement pour un couple, avec un enfant, c'est...
Un petit salaire moyen pour le moindre appartement, vous n'avez rien en dessous de 1 400 € par mois. C'est-à-dire, il faut travailler à deux sur Venise. Vous avez les saluts informels. On se salue de façon très, très directe sur Venise dans les quartiers populaires. Avec ciao bella, ciao bello, même si on n'est pas beau, hein, c'est complètement indépendant du fait d'être beau ou pas. C'est limite vexant quand on découvre que c'est une formule. Et là, dans ces quartiers, on a une présence familiale et je pense que vous l'avez senti, on se rend compte, là, il y a des enfants qui se baladent, des poussettes. Là, il y a vraiment une vie locale.
J'étais en train d'enregistrer justement les talons.
La sonorité. Ouais. Ça, c'est une particularité vénitienne. Dans une autre ville, ce genre de sonorité, c'est couvert par les voitures, le bruit des voitures. Et là, c'est assez impressionnant, surtout la nuit. La nuit, c'est quelque chose, moi, qui m'a énormément impressionné lorsque je suis arrivée, en particulier dans les ruelles désertes. Et vous avez quelqu'un qui arrive derrière avec des talons et fait tac, 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 tac. Toute cette sonorité particulière, ça a quelque chose, même un peu d'inquiétant, de mystérieux. Il y a une dimension un peu... hors du réel.
Je suis presque jaloux de ne pas avoir grandi à Venise.
Hein. Ah, oui.
Je me dis que grandir à Venise pour un gamin, ça doit être top. Bon, on n'a pas de vélo, on n'a pas de scooter, mais on a un bateau.
Alors, pour les enfants, il y a la possibilité quand même, c'est toléré, on va dire, pour eux, d'utiliser le vélo. Par contre, sur les places, en dehors de la place Saint-Marc, paraît-il que ça dérangerait les visiteurs, la présence de vélos. Donc, ils sont interdits. À la place Saint-Marc, on ne peut rien faire. On ne peut pas promener son chien, on ne peut pas emmener ses enfants, on ne peut rien faire. Donc, toute la vie sociale est décalée dans les autres quartiers. Alors là, on est à un bar à vin qui s'appelle Timone, qui est très, très sympa.
Bon, là, on est en train de s'arrêter dans un bar, en train de choisir les cicchetti, le spritz.
Bonjour.
Ah, bonjour.
Ah,
Peut-être
qu'elle
est française d'origine, non?
Il n'y a pas d'accent derrière.
Avec nous, le tourisme s'est ralenti à Venise depuis cette période de Covid. Comment vous, les Vénitiens, vous le vivez, comme une malédiction ou comme une chance?
Un petit peu tous les deux, dans le sens que dans la première période, on était très contents parce qu'on réussit à marcher dans la ville. C'était vraiment étrange, mais après, on a commencé à souffrir parce que quand même, toute Venise vit avec le tourisme. Donc, si les Vénitiens ne viennent pas ici, c'est parce qu'ils n'ont pas à travailler. Ça a été un petit peu tout le monde qui a souffert de ça, mais maintenant, ça a repris, hein. Aussi avec le tourisme d'Italie, mais aussi un petit peu avec le tourisme de Germanie, de l'Allemagne, désolé, de la France et de la Suisse.
Il y a une véritable à la fois dépendance économique et en même temps un désir de se dire qu'il y a beaucoup trop de touristes et que ça détruit la ville. Comment on trouve l'équilibre selon vous?
Dès que je suis arrivée ici, ce que j'ai compris, c'est qu'on doit trouver un équilibre et donc on doit chercher de reporter un petit peu de Vénitiens ici. Parce que le problème, c'est que la majorité des Vénitiens sont allés à Mestre ou d'autre part pour vivre. Parce que c'était... ça convenait. Vous savez, ils pouvaient donner la maison à le tourisme et donc la faire payer plus, toutes ces choses-là. Et maintenant, on a vu vraiment combien on a besoin d'avoir des Vénitiens et de travailler avec quelque chose de différent.
Votre prénom?
Charlotte.
Merci.
Salut, merci à vous.
À quoi il va ressembler ce touriste dans 5-10 ans?
Ce que j'espère, moi, personnellement, c'est plus de voyageurs et moins de touristes. Ça, moi, c'est mon souhait pour la ville, c'est mon souhait aussi pour mon propre travail. Donc, il faut continuer à faire vivre ces quartiers qui résistent. Ils sont en train de résister. Il faut les aider à résister. Donc, il faudrait que la demande touristique elle aille dans ce sens-là. Si possible... Que la ville ait de nouveaux résidents. Idéalement, il faudrait de nouveaux résidents. Alors, je ne sais pas, est-ce que ça peut être du télétravail aussi pour éviter le tout-tourisme en complément du tourisme, donc un tourisme de qualité et du télétravail, pourquoi pas, qui est un compromis entre les deux.
Merci pour la balade, Muriel.
Merci à vous, Julien.
Qué profunda emoción recordar el ayer cuando todo en Venecia me hablaba de amor. Ante mi soledad en el atardecer tu lejano recuerdo me viene a buscar. Qué callada quietud, qué tristeza sin fin, qué distinta Venecia si me faltas tú. Una góndola va cobijando un amor, el que yo te entregué, dime tú dónde está. Qué tristeza hay en ti, no pareces igual. Eres otra Venecia, más fría y más gris. El sereno canal de romántica luz ya no tiene el encanto que hacía soñar. Qué callada quietud, qué tristeza sin fin, qué distinta Venecia si me faltas tú. Ni la luna al pasar tiene el mismo fulgor. Qué triste y sola está Venecia sin tu amor. Cómo sufro al pensar que en Venecia murió el amor que jurabas eterno guardar. Solo queda un adiós que no puedo olvidar. Hoy Venecia sin ti, qué triste y sola está.
Là, on est entre la gare et le pont Rialto. Bon, ça fait partie des rues les plus passantes hein, de Venise. D'ailleurs, il y a un petit peu de monde aujourd'hui. C'est le week-end, un petit peu de touristes pour les quelques jours. Et j'ai rendez-vous avec Francesco. Francesco, il fait partie, c'est le membre fondateur d'une plateforme sur Facebook, sur Instagram, qui s'appelle Venezia Non è Disneyland. Quoi ça sert, en fait, cette plateforme qui veut dire assez évidemment hein, que Venise, c'est pas Disneyland.
Siamo nati 4-5 anni fa.
La page est née il y a 4-5 ans pour dénoncer le problème auquel Venise faisait face à cause du tourisme de masse.
Et puis, negli anni, siamo diventati più una pagina.
Et puis, au fil du temps, on est devenu aussi une page d'espoir, car on ne se limite pas à dénoncer ce qu'il y a de mauvais, mais on montre aussi les belles initiatives culturelles qu'il y a dans la ville.
On va avancer un petit peu, Francesco, parce qu'on va faire une sorte de petit itinéraire de ce qu'était Venise avant, ce que c'est devenu aujourd'hui, avec des magasins. Par exemple, là, il y a un Burger King, donc c'est vraiment un fast-food américain qui a remplacé un ancien restaurant qui était un restaurant assez légendaire, visiblement dans Venise. Juste après, il y a l'ancienne poste qui était un lieu de patrimoine extraordinaire qui est devenu un centre commercial de luxe. Moi, j'ai rencontré l'adjoint au tourisme, Venturini, ici à la mairie. Et il me dit, le problème, c'est pas nous. Nous, on voudrait faire quelque chose. Il dit, le problème vient de l'État italien qui nous laisse pas le droit de pouvoir dire il y a une limitation du nombre de magasins de souvenirs, de restaurants fast-food, etc., etc.
Ok, grazie, assessore. Mais, secondo me, il problema
ok, est ben merci l'adjoint. D'accord, mais le problème, c'est qu'on ne fait rien pour repeupler Venise. Tu vois, ça peut marcher pour le problème des magasins, mais s'il n'y a pas d'initiative pour ramener de la population dans Venise, bah, ça ne sert à rien et on va le voir.
Vous, Francesco, vous avez fait partie des Vénitiens qui ont apprécié le Covid, visiblement, non?
Ah, si, brutto da dire, ma si.
Bon, c'est un peu moche de le dire comme ça, hein, mais oui, effectivement, le Covid, ça nous a permis de vivre à nouveau le Venise d'antan. Quand on était petit, il n'y avait pas autant de touristes dans la rue.
Comment vous expliquez l'accélération du tourisme de masse de Venise de ces 5 dernières années?
Sono sicuramente aumentati i posti letto perché non è mai stato messo un freno.
Il y a sûrement eu une hausse des lits disponibles dans Venise parce qu'il n'y a jamais eu un frein dans les hôtels, dans les locations particulières et du coup s'il y a plus de lits, de possibilités, les prix baissent et il y a plus de monde qui peut venir à Venise, ça c'est mathématique.
C'era, mi ricordo, una statistica che avevamo messo nella pagina.
Je me souviens, il y a une statistique qu'on a publiée sur la page. Première année 2000, il y avait 3 locations Airbnb dans Venise. En 2017, il y en avait 20 000. Donc, qu'est-ce que tu veux faire?
Ce qui est assez troublant, quand on se balade le soir à Venise, déjà les touristes partent pour la plupart à partir de 18h. Hein, il n'y a plus personne, il n'y a plus que les Vénitiens. Surtout, c'est de voir que l'intégralité de la ville n'est pas habitée. Il n'y a pas d'habitants, les fenêtres sont toutes éteintes.
C'est vrai, et siamo davanti al posto che lo testimonia.
Oui, c'est vrai, et on est devant un endroit qui le témoigne. Là, on est en face de la pharmacie Morelli, qui depuis quelques années a dans sa vitrine un compteur qui mesure le nombre d'habitants dans Venise.
Alors ça, en plus, on n'est quand même pas très loin. Je crois qu'on doit être à 200-300 mètres de la mairie. Alors là, sur le panneau, effectivement, on voit pratiquement en temps réel 50 965 habitants, sachant qu'il y a, voilà, il y a 10 ans, il y en avait 10 000 de plus. Ça veut dire que tous les 10 ans, Venise perd 10 000 habitants.
Et nessuno. Neanche l'amministrazione comunale.
Et oui, et même l'administration municipale, personne n'a rien fait pour changer cela. Et donc, j'ai envie de dire, il n'y a pas de limite au pire.
Bon, en plus, alors le compteur, il est directement connecté avec le site internet de la commune de Venise. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est officiel. Hein. Là, aujourd'hui, votre page Facebook, vos réseaux sociaux, votre plateforme avec plus de 100 000 personnes, c'est pratiquement... Allez, j'exagère un petit peu, mais c'est une sorte de parti politique. Vous avez un poids aujourd'hui au niveau de l'opinion. Qu'est-ce que vous aimeriez faire pour limiter justement ce tourisme de masse? Quelle serait la solution pour rééquilibrer?
Soluzione difficile da trovarla, però
La solution, c'est difficile à trouver, mais déjà, ce qu'on voit ces jours-ci, par exemple, le tourisme a repris un peu en ville, mais c'est un tourisme un peu plus relaxé. Les gens ne viennent pas qui pour une nuit, ils repartent, ils restent quelques jours. Donc ça peut être une solution.
Peut-être, Francesco, puisque vous nous avez proposé un itinéraire sur l'aspect un brin négatif quand même de Venise, si on essaye de terminer cette balade avec un endroit en particulier que vous pourriez nous conseiller aux auditeurs qui nous écoutent, ça serait où ?
Si andiamo sul recente.
Écoutez, si on prend la toute dernière actualité, moi je pense qu'un endroit un peu symbolique, c'est le stade de foot de Venise. L'équipe de Venise vient d'être promue à Serie A.
Et questo farà sì che le squadre di calcio delle più importanti.
Et cela veut dire que des équipes très connues comme la Juventus ou le Milan AC vont venir jouer contre Venezia à Venise dans ce stade qui est dans le centre historique et c'est un stade qui est contourné par l'eau, par la lagune sur trois côtés sur quatre et c'est une expérience folle.
Voilà, donc c'est même si on n'aime pas le football et qu'on s'en fiche de l'équipe de Venise, au moins on vient pour la vue au stade. Grazie Francesco.
Prego, grazie a voi.
On va regarder si on a gagné un habitant. Non, toujours pas. Non.
Non, non.
On repasse demain. Vous avez peut-être reconnu les musiciens de la place Saint-Marc sur les terrasses, place Saint-Marc, avec ces touristes principalement italiens, ce que j'ai pu entendre, quelques francophones, quelques européens. Avant la reprise du transport international qui se fera début juillet pour l'Amérique avec les vols directs pour New York, pour Atlanta et puis pour le Japon. Et puis avec le barman avec qui je discutais, racontait qu'ils travaillaient environ à 10% de leur capacité, même s'il y avait un petit peu de monde pendant les week-ends. Les croisières, elles, se font toujours un petit peu attendre et désirer. Vous allez me dire, tant mieux. Le dernier bateau qui est arrivé sur Venise a fait débarquer 600 personnes au lieu des 6000 en raison du Covid. Alors évidemment, je ne devrais pas vous dire ça, mais si vous avez des envies de Venise, je crois que c'est maintenant ou peut-être jamais.
Aujourd'hui, Venise vit du tourisme. La mairie va-t-elle réussir à inventer un nouveau modèle ? Il y a aussi la menace de la montée des eaux, même si le MOS, un système de digues pour protéger la ville historique des inondations, a été inauguré l'année dernière. Les scientifiques prédisent qu'il ne sera pas assez résistant. Alors pour toutes ces raisons, Venise sera-t-elle inscrite la semaine prochaine par l'UNESCO sur la liste du patrimoine mondial de l'humanité en péril ? À suivre. Merci à Julien Comand pour ce reportage, à François Porcheron pour sa réalisation et à vous pour votre écoute. Prenez soin de vous et des vôtres. On se retrouve demain, même planète, même heure.
È un filo di Troia in Venezia, 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 cia, 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 lo tengo.